Voilà, nous allons démarrer cette séquence 3 et dernière séquence nature voulue puis vécue avec 4 interventions d'Olivier, successivement d'Olivier Piron sur le thème envie de nature et densité, compatibilité, contrainte. Je reviendrai pour la présentation de chacun des intervenants, de Nicole Mathieu sur habitabilité des milieux urbains, de Pierre Lécuel, un quartier durable, l'expérience de Yorzoy, et de Philippe Motte sur l'habitat dense comme réponse d'envie de nature dans les nouveaux quartiers. Alors nous allons commencer sans plus attendre par Olivier Piron. Je vous présente Olivier Piron, il est inspecteur général de l'équipement, secrétaire permanent du PUCA, et il est directeur de l'Observatoire international de prospective régionale. Il n'y a pas trop d'erreurs ?
Si, j'ai participé à cet observatoire, mais heureusement pour lui, je ne suis pas directeur. Qui est monsieur, mon ami, monsieur Guinouache ?
Bien, et vous allez intervenir donc sur envie de nature et densité, compatibilité et contrainte. Je n'ai pas d'erreur non plus ?
Non, non.
Vous êtes à parole. Bonjour. Environ 10 minutes.
D'accord. Bonjour. J'ai été frappé dans ces derniers mois, par la montée des débats sur la densification. La multiplication des études faites par les agences d'urbanisme, pratiquement toutes, frontant les lois de la distance, montrant qu'il était toujours possible, quel que soit le terrain, de densifier un. Ce qui est parfaitement exact. Mais on est clairement dans une logique de l'offre. On peut nous poser la question de la demande. Au fond, qu'est-ce que les gens acceptent comme densité ? Parce que ce n'est pas la peine d'avoir une offre s'il n'y a pas de demande, c'est pas de réponse. Car qui fait la ville ? Ouais, parce qu'on en a un peu parlé souvent théorique, la ville est faite par les gens qui la payent. Les gens qui la payent, eh bien, c'est les gens qui achètent des maisons, c'est les gens qui louent des appartements, c'est les gens qui payent des impôts. Il faut toujours faire un débat, il y avait quelqu'un qui disait c'est le maire qui choisit la population. Je pense que ça peut être une erreur, parce que normalement, en France, et ailleurs aussi, c'est la population qui choisit. Donc c'est la population qui fait la population présente ou la population future qui décide de venir ou pas. Donc mon idée a été de travailler sur, non pas les densités souhaitées par les urbanistes, les densités souhaitées par les maires. Les maires changent le discours en fonction des lieux. Ils sont évidemment pour la densité dans les urbanistes et pour les espaces verts dans les environnementalistes. C'est leur métier d'adapter leur discours à l'auditoire. Je me suis posé la question, moi, qu'est-ce que les gens acceptent ? Et donc la densité acceptée par la population. Alors pour ça, ben, il faut un corpus. Ouais, je vais mettre un classique de recherche, il faut un corpus. J'ai pris un corpus extrêmement simple. J'ai pris les 300 communes de France les plus denses d'après l'encensement en 1990. Je vous donne la méthode, vous pouvez la faire. Il suffit de prendre un peu de temps. 300 communes de France les plus denses en 1990. J'ai regardé comment leur population a évolué à périmètre constant. Parce que si on travaille sur les périmètres de zones urbanisées, on n'y arrive pas, et d'ailleurs on ne les connaît pas. Donc j'ai regardé les surfaces géographiques constantes. Alors ça biaise un peu le résultat parce que vous avez des villes comme Toulouse, Montpellier, qui ont encore quelques champs à tartiner. Donc il y a quelques biais, mais globalement, les 300 communes les plus denses, c'était globalement urbanisées à 90% en 1968, et donc ça diminue le biais. Et qu'est-ce que j'ai constaté ? Alors, c'est des constatations qui figurent dans l'article que j'ai fait dans le Revue Foncière, c'est le numéro 119 de janvier-février 2006. J'ai trouvé une constatation assez curieuse, c'est-à-dire une convergence vers une densité démographique d'un calcul d'habitants du kilomètre carré. Alors, je dis tout de suite ce que je pense sur vos densités, que vos densités est un mot redoutable, parce que dans vos densités, c'est un rapport. Donc il y a ce qu'on apprend à l'école, un rapport, il y a un numérateur et il y a un dénominateur. Et quand on prononce sur votre densité sans préciser le numérateur et le dénominateur, on peut dire absolument n'importe quoi. Ce qui est admirable d'ailleurs, c'est très très commun dans certaines discussions, on pourrait dire n'importe quoi, si on peut se mettre d'accord, on dit maintenant de rien. Donc là, pour être précis, je parle de la densité démographique à l'échelle de la commune. Donc je prends la population communale sans double compte. Avec double compte, c'est un peu plus compliqué. La population communale sans double compte rapportée à la surface, c'est en gros stable. Il y a quelques communes comme Lille où la surface a bougé, mais enfin, globalement, c'est pas gênant. Ça concerne quand même une population de 16 millions d'habitants, 16-17 millions d'habitants, donc c'est quand même pratiquement la moitié des communes urbaines, c'est des champions classificatifs. Eh bien, on voit qu'il y a une convergence, en gros, autour de 4 000 habitants par kilomètre carré. Les communes qui étaient au-dessus, Paris, Lyon, Grenoble, sont plutôt descendues. Les communes qui étaient au-dessous sont plutôt montées, attends, c'est Chantillon. Les villes nouvelles arrivent à ce niveau-là, il n'y avait personne, on arrive là globalement. Évry un peu plus parce qu'il y a une centralité par la préfecture. Saint-Gilles-Pont-Trois, on est là-dessus, avec son mix avec Courcouronnes, etc. Alors, évidemment, en région de France un peu plus fort, en Île-de-France un peu plus faible, mais il y a une convergence extrêmement forte. C'est également, dans le cas de ça, c'est également une stabilité quasi totale de la population d'Échantillon depuis 68. Cette commune avait 16 millions 7 d'habitants et continue à avoir 7 millions 7. Ce qui prouve que le thème de la ville totalement urbain est un thème totalement insane, car c'est au point totalement urbain où on a mis les 10 millions de personnes complémentaires qui habitent en zone urbaine. Voilà. Alors, une fois qu'on a, ce résultat, on peut être étonné, parce que 4000 habitants du kilomètre carré, ça fait quand même 40 habitants à l'hectare. Que d'habitude, les urbanistes parlent plutôt de densité de 40 logements à l'hectare. Alors, comment se fait le passage de la densité démographique globale à l'unité de compte courante pour les urbanistes, qui est la densité résidentielle, qui est la densité qu'on voyait d'ailleurs dans la zone. Et c'est ce qu'on disait, s'exprimer en densité résidentielle dans les documents d'urbanisme issus des ordonnances de 58, maison d'habitation basse avec jardin, tiroir avec commerce. Si on regarde la densité résidentielle, alors toujours pour les communes denses, on peut avoir en gros les ratios suivantes d'occupation du sol. En gros, il y a 15% d'espace rigoureusement constructif. L'espace rigoureusement constructif, ça peut être les fleuves. Bon, les fleuves sont très présents en surface, c'est au moins 10%. Dans la plupart des villes, vous prenez Bordeaux, Toulouse un peu moins, mais Paris, bref. Ouais. Les fleuves, vous avez des bouts de forêt, vous avez des montagnes, à Grenoble, vous avez des trucs. Bon. Vous avez toujours à peu près 15% rigoureusement inconstructible, pour des raisons physiques ou pour des raisons politiques, sans très part, pour dire que c'est. Vous avez en gros 20% pour tout ce qui est voirie. L'ensemble de la voirie fait en gros 20%. Il y a évidemment un énorme paquet, il y a les boulevards, les autoroutes, les stades, etc. Mais vous avez des chemins de fer, vous avez des gares de triage. Alors ces 20% sont répartis de façon très différente dans les communes, mais en gros, au point de vue, ça fait 20%. Vous avez en gros 25% pour les activités en équipement. Alors évidemment, dans ces 300 communes denses, pratiquement toutes les usines ont été virées, mais il reste des grandes surfaces. Il reste des hautes expositions, il reste des hôpitaux, il reste des universités, qui sont des équipements non résidentiels qui consomment beaucoup d'espace. Et il reste en gros 40%. Il reste en gros 40% pour le résidentiel. Donc, je prends le résidentiel au sens large, je ne parle pas de parcelles. Bon. Les résidentiels, y compris les trottoirs, y compris le parking. C'est un peu comme ça ce que j'ai regardé. C'est comme ça que s'exprime MOS en Ile-de-France. Pour ceux qui ne connaissent pas, MOS, c'est une méthode d'observation du sol. Et il donne des cartographies à la commune extrêmement précises, avec des chiffres qui ont bien été utiles, distinguant le résidentiel, y compris la petite voirie de l'école, la voirie non résidentielle, etc., etc. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre? Ben, on découvre que ces 4000 habitants du kilomètre carré débouche sur, avec ces calculs-là, sur 40 habitants à l'hectare, ce qu'on a à peu près 25%. On a, vous avez entendu, 25% et les ménages, les familles en moyenne, 3 habitants par logement. On doit être à 2,31 en moyenne en France. Donc on retrouve une densité que pratique, alors là les urbanistes, les ordres de grandeur que vous connaissez, de 40 habitants à l'hectare. Donc 40, 45, 50, on va essayer cette fourchette. Donc, première conclusion extrêmement basique, les personnes acceptent une densité de 40 logements à l'hectare quand elle est bien faite. Quand elle est mal faite, on sait, enfin, vous savez tous la différence entre les choses bien faites et mal faites. Si on regarde sur le plan européen, la densité des capitales européennes, on voit que Paris et Lyon sont des villes de loin les plus denses en Europe, avec Barcelone et Athènes, mais ces chiffres-là, c'est ce qu'on trouve, pour Amsterdam, c'est ce qu'on trouve pour la grande partie de Londres, etc. etc. Après, j'ai continué ma recherche pour interpréter ça, j'ai pris l'inverse, en disant au fond, ça revient à 125 mètres carrés par logement. Donc, j'en déduis qu'il y a une unité, j'appelle ça l'inverse d'un résidentiel net, j'appelle ça le confort spatial. On arrive dans l'évidence à 125 mètres carrés de confort spatial par logement. Alors, le confort spatial, l'espace, c'est tout l'espace nécessaire pour un logement, c'est l'espace nécessaire pour la maison. Bon, si c'est une maison de ville, ça peut être 100 mètres carrés. Quoi. Mais si c'est une tour, ben c'est la cote-part pour l'emprunt au sol de la tour qui peut descendre à 20 mètres carrés. Et puis vous avez le trottoir, vous avez la chaussée, vous avez la voirie, vous avez les écoles, le petit commerce à proximité. On arrive à 125 mètres carrés par logement. Si on divise par 3, on arrive à une moyenne d'environ 40 mètres carrés par habitant. Il pourrait y avoir des contre-exemples, en s'interrogeant par exemple sur le cas de Paris, qui a plutôt 20 000 habitants, une densité de 20 000 habitants du kilomètre carré, mais à Paris, plus de la moitié des logements à Paris, comme à Lille, comme à Bordeaux, sont occupés par des ménages d'une personne. Donc plus de la moitié, c'est bien 40 mètres carrés par habitant. Alors pourquoi on arrive à des choses aussi élevées? La population de Paris maintenant, c'est que ces 40 mètres carrés par personne pour les insiders, pour les gens comme quoi, sont compensés par les familles qui se mettent à 5, 6 ou 10, donc ils mettent 20 mètres carrés. Je ne veux pas répondre là-dessus, l'actualité en est remplie depuis toujours. La population de Paris se fait comme ça. Paris est la seule grande ville en France dans laquelle les ménages, les familles de plus de 3 enfants, 4 enfants, augmentent constamment. On sait dans quelles conditions elles sont bonnes. Donc voilà ma conclusion. Les urbanismes denses acceptent des densités de 40 logements à l'hectare, ce qui correspond d'ailleurs à peu près pour les normes d'équipement, si on prend les normes d'école, les normes de matière d'école, les grilles du fond, tout ça, ça correspond à peu près aux chiffres qui avaient été énoncés il y a 15 ou 20 ans. Alors, ma conclusion est assez gentille, deux, trois conclusions assez simples. Premièrement, si on arrive à ça, c'est bien qu'on a un optimum économique. Donc je réponds à notre interpellation de notre ami de Montpellier tout à l'heure, il a tout à fait raison. Les fortes densités sont ruineuses. Si on fonctionne au coût global, les fortes densités peuvent peut-être diminuer un peu le coût des transports pendant la semaine, pendant le jour durable de la semaine. Mais ça correspond à 250 jours sur 365. Par contre, si on faisait les bilans de transport, y compris les transports de week-end, on verrait que c'est négatif. Et si on prend en plus le fait que les gens dans les villes sont des bons voyageurs qui franchissent l'océan pour leurs vacances, on arrive au fait que la ville dense est sans doute, contrairement à ce que tout le monde dit, tout le monde écrit, beaucoup plus consommatrice en énergie qu'une ville étalée de densité non médiocre. Ça, c'est pour l'économie des personnes. D'ailleurs, s'il y a des étalements urbains depuis 30 ans, c'est bien que ça correspond à un optimum économique, aussi bien pour les individus que pour les particuliers, sinon ça passait des choses. Plutôt que l'étalement urbain est ruineux, mais c'est comme ça qu'on loge les Français depuis 30 ans. Bon. Et deuxièmement, si on prend les chiffres, alors maintenant, en regardant l'étalement urbain, pour faire la multiplication, simple, toujours simple, hein, on construit en ce moment 400 000 logements par an, un rythme raisonnable qui va sans doute monter progressivement à 500 000 logements par an. On fait la multiplication, ça revient à peu près à 600 hectares par an. Je prends le ratio de 40%, on voit qu'on arrive à 1000 hectares par an. Donc on a une mesure un peu de l'étalement urbain minimum en fonction des réflexions sur les densités acceptées.
Merci Olivier Biron, c'est à la fois un travail très mathématique et qui débouche sur des des conclusions un petit peu décapantes, quand vous dites que la vie est allée trouver un peut-être plus économiquement durable que la vie concentrée. Je pensais vous laisser la parole maintenant. Je me demande s'il vaut mieux pas que Nicole Mathieu intervienne tout de suite un petit peu, donc, parce qu'elle est sur le même thème de ces densités. Et je pense que je vous laisserai la parole après deux interventions, compte tenu du fait que les deux derniers intervenants sont plutôt dans l'expérience et moins peut-être dans le concept. Alors je rappelle que Nicole Mathieu est agrégée d'histoire et géographie, directrice de recherche émérite au CNRS, à l'UMR, l'ADIS, qu'elle a fait beaucoup de réflexions sur le rural et sur la relation entre l'urbain et le rural, notamment à l'étude des liaisons entre l'interdisciplinarité que cette recherche pourrait faire, et que l'habitabilité des milieux urbains se fonde un petit peu sur une étude de l'agglomération rouennaise. Voilà, je vous laisse la parole.
Bien, alors j'ai essayé de changer un peu le titre en fonction de ce que j'avais entendu hier. J'ai essayé de changer un peu le titre de mon intervention en disant d'une recherche exploratoire. Donc, c'est la recherche de laquelle je vais vous parler, à vivre une ville naturelle à Rouen, vers des pistes de réflexion pour un urbanisme durable. Alors que je remercie beaucoup Agnès Demouty qui m'a invité à être parmi vous, parce que finalement, la confrontation entre les chercheurs et les fabricants, les constructeurs qui soient urbanistes, architectes ou paysagistes, n'est pas toujours facile. Et donc j'ai le sentiment que c'est un petit peu un défi pour moi que de dialoguer avec donc cette association des urbanistes français. Je présente cette recherche. Attendez, encore une seconde, je présente cette recherche, mais dans une certaine mesure, je dois tout de suite donner le nom de Vendry Bussy, qui a fait son doctorat sur le sujet, et de Thierry Mazelier et Henri Reynaud, qui sont architectes et qui étaient prêts d'ailleurs à venir aujourd'hui pour se présenter, mais je me suis dit qu'en 10 minutes, ça valait pas la peine qu'ils sortent de leur travail, de leur débordement. Alors, je commence d'abord par le suivant, s'il vous plaît, la genèse donc, de cette recherche. Donc, vivre la ville naturelle, dans le fond, c'est le point de départ et la réflexion, effectivement, sur la question de la nature. La question, on le traduirait dans votre langage par l'idée d'envie de nature, de idylle de la nature, l'idée de demande de nature, etc. En tout cas, la question de la nature aujourd'hui, mais elle a été liée tout de suite à la question de l'environnement et dans un livre qui s'appelle « Du rural à l'environnement, la question de la nature aujourd'hui » qui date de 89. Et puis ensuite, donc, vous voyez, le point de départ, c'est quand même la réflexion. On peut avoir une réflexion sur l'usage de la nature dans le milieu rural, aussi bien que dans le milieu urbain. Ce n'est pas parce qu'on va dans un espace à l'autre qu'il n'y a pas, j'y reviendrai, qu'il n'y a pas aussi à poser des questions de nature, y compris quand on est en milieu rural. Donc c'est un premier point. Ensuite, deuxième point, c'est effectivement ce colloque national d'écologie urbaine dirigé par Jean-Marie Vulguet et qui, en fait, a insisté beaucoup sur la question de l'interdisciplinarité et m'a engagé en quelque sorte à aller dans la question de la nature en milieu urbain. Ensuite, si vous voulez, je pense que ça vaut la peine donc, pour pouvoir m'introduire dans le milieu urbain et donc sur les rapports à la nature dans le milieu urbain, il fallait passer par un détour, le rapport à l'animal, et non pas seulement le rapport au paysage ou le rapport à la belle nature, et pour y entrer, je suis entrée par les plaques en milieu urbain. Alors vous voyez, les plaques en milieu urbain, c'est-à-dire la nature non désirée. La nature non désirée, celle qu'on ne veut pas. Est-ce qu'elle existe aussi, cette nature non désirée? Elle fait partie de, notre, de la nature qui nous environne. Et puis finalement, donc, le livre « La nature dans la ville, vivre la ville au naturel » qui fait partie de ce livre « La ville durable, du politique au scientifique » dans l'édition. Alors, la suivante, l'objectif et l'enjeu principal, donc, au fond, la vraie question que nous avons posée, c'est y a-t-il un rapport entre les propriétés naturelles et environnementales d'une ville ou de quartier d'ailleurs, et le bien-être de ceux qui l'habitent? C'est la question. Et dans cette question, deux versants sont indissociables. C'est d'une part le bien-être habitant et d'autre part la qualité écologique des milieux de vie. Et en fait, par cette entrée, on rentre par l'habitant ordinaire, on rentre par la valeur des lieux. On ne rentre pas, si vous voulez, comme on pourrait dire, par des idées sûres, mais on rentre par une espèce de diagnostic, de méthode pour essayer de comprendre ce rapport des habitants ordinaires et la valeur des lieux. Alors, évidemment, quelle production de connaissances scientifiques peut contribuer au développement durable développement urbain durable. Et là, je voudrais dire aussi qu'un point, c'est que pour nous, bien que nous mettions l'accent sur la nature, il est évident que le développement urbain durable ne peut pas se limiter à une réflexion simplement sur l'introduction de la nature dans la ville. Et il est évident que quand on dit développement durable, on doit dire aussi la société, on doit dire l'économie, on doit dire les trois dimensions, et on doit finalement, c'est plutôt une articulation entre les trois dimensions que l'on essaie de proposer, de comprendre d'abord et de proposer. Ensuite, la suite s'il vous plaît. Alors, la posture de recherche, rapidement, donc choix de la complexité, construire le problème de recherche dans ces dimensions les plus conflictuelles, c'est-à-dire la dimension sociale et la dimension environnementale. Disons, parce que finalement, c'est vrai que quand on va toujours parler de nature, et on va parler de nature en milieu urbain, de paysage, et on va évacuer la question sociale. Et en fait, la vraie question, c'est vraiment la question de comment vivent les habitants dans ces milieux de vie urbains. Qu'est-ce qu'un milieu urbain de vie socialement durable? Bon, je passe après, habiter et pratiquer la vie, la suivante. Le choix de l'interdisciplinarité, une méthodologie donc valorisant le croisement des outils et des compétences disciplinaires. En fait, c'est très important pour nous, justement, qu'il n'y ait pas d'un côté les gens de sciences sociales qui analysent le problème, même ne serait-ce que sur la question des discours sur la nature ou de l'opinion des gens sur la nature, mais qu'il y ait un croisement toujours avec, finalement, les disciplines qui peuvent nous parler, par exemple, de la matérialité urbaine, comme les architectes ou les ingénieurs, les sciences de l'ingénieur, et évidemment les sciences de physique. Et donc, ne pas essayer de construire le problème au croisement même de ces disciplines. Donc, entre collaboration, sciences de la nature, mais aussi les sciences fabricantes, hein, qu'elles soient les sciences de l'ingénieur, ou qu'elles soient les sciences, ou les arts, puisque sont, urbanisme, paysage, et paysagistes, et architecte. Alors, le problème, aussi, du point de vue de la posture de recherche, c'est l'obligation d'avoir le choix d'un site commun, c'est-à-dire non pas d'essayer de trouver les idées en illustrant, en passant d'un endroit à l'autre, mais toutes ces disciplines et tous les gens, tous les chercheurs, travaillent sur un site commun, et c'est ce site commun, c'est sur ce site commun que l'on fait le travail. La suite. Alors, en gros, il y a eu pour le cas de la ville romaine, d'une part une analyse spatiale quantitative et modélisation des natures dans l'agglomération rouennaise, d'autre part, l'analyse sensographique des architectes, qui était une analyse presque qualitative et sensible, une approche sensible, en même temps, évidemment, connaissance des coûts des matériaux, connaissance des... Mais en même temps, le développement d'une approche sensible, je n'ai pas le temps de développer, et puis une sorte d'anthropologie géographique avec ce qu'on a appelé les récits de lieux de vie et les cultures de la nature, c'est aussi un concept important, c'est-à-dire qu'on essaye de retrouver chez les gens eux-mêmes, finalement, ce qui les motive et ce qui explique à la fois leur usage et leur pratique de leur milieu de vie, articulé autour des deux versants du concept de modalité. Ensuite, alors, c'était pas facile de se mettre d'accord sur les micro-sites, je vais juste aller très vite, parce que pour les géographes, ils ont quand même une conception du site autour d'un gradient. Par exemple, il fallait qu'il y ait à la fois du centre-ville jusqu'à la périphérie, etc. C'est-à-dire une idée en fait de gradient depuis le plus dense, alors je dirais pour Olivier Piron, depuis le plus dense jusqu'au moins dense, et comme des sortes d'exemples, de cas types le long de ce gradient. Alors que les architectes, finalement, n'ont pas du tout ce type de raisonnement. Pour eux, l'importance l'importance des ruptures, des discontinuités du sensible. C'est à partir de là qu'ils réfléchissent et qu'ils établissent un ordre de valeur dans leur métier, en quelque sorte. Ensuite, oui. Alors, les trois sites, je n'y passe, le temps perdu, le quartier de la gare et la zone verte est un ensemble d'adeptes de la charte d'Athènes de Michel Lotz. Et donc, ils sont un peu génériques parce que le temps perdu, c'est un quartier de pavillonnaire intérieur à la ville, enfin à la limite de la ville, c'est un petit quartier de pavillon des années. Ça commence aux années 30, mais le gros des pavillons est entre 50 et 70, si vous voulez. Ensuite, le quartier de la gare est un quartier qui était intéressant pour nous parce qu'en fait, il est un des plus pollués de Rouen, qui, vous savez, est une cuvette dans laquelle s'accumulent en quelque sorte les pollutions, à la fois des industries, c'est les eaux, et en même temps aussi de l'automobile, de la circulation automobile. Et puis la zone verte, qui est donc un ensemble d'immeubles plutôt en bas, avec une tour seulement, mais plutôt en bas, et qui sont disposés, et qui sont d'ailleurs utilisés comme des habitations à loyer modéré. À la suite, alors, les résultats, je vais essayer d'aller le plus vite possible, donc vous avez compris que, et c'est à la fois des pistes que je propose de réflexion. Alors, du côté des lieux habités, je crois que c'est très important de montrer que dans tout espace urbain, on pourrait dire mais rural aussi, il n'y a pas une, mais des natures de la ville, des natures dans la ville. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, il y a des catégories de nature, il y a à la fois, on peut dire même, de la nature sauvage, vous connaissez peut-être le livre de Sauvage dans la ville, des anthropologues, Bernard Delguisé, etc., qui montre que finalement, et d'ailleurs vous le savez très bien, tout le monde le sait, l'habitant ordinaire le sait bien, qu'il suffit d'un rien pour qu'une plante s'installe spontanée, qu'il y ait aussi des plantes natives, qu'il y ait des renards, des animaux, enfin, il y a une vie, si vous voulez, qui, évidemment, est en proportion différente, mais il y a une vie partout. Donc la nature sauvage, elle est là, elle est à la portée de nos pieds, en quelque sorte. Mais il y a aussi cette nature domestique, qui est à la fois la nature domestique, donc végétale, mais aussi animale, et dans une certaine mesure, ça oblige aussi à ne pas se concentrer toujours, se focaliser sur le vert, les espaces verts, la question de la végétation, et aller beaucoup plus, si vous voulez, en profondeur dans tout ce qui, finalement, contribue à animer la question de la nature. Et puis, on va même jusqu'à l'idée de nature de l'artefact. C'est-à-dire que, dans le fond, jusqu'aux matériaux synthétiques, C'est-à-dire, je le dis souvent, je prends souvent l'exemple de l'opéra de la Bastille, la vieille dame avec ses pierres qui tombent et qui est obligée de se mettre son filet sur la tête parce que sans cela, les pierres vont dégringoler. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que même dans le matériau, il y a de la nature, il y a quelque part de la nature dans la rencontre entre ce matériau, la nature, c'est la physique, c'est la chimie, c'est tout ça, hein, si vous voulez. C'est pas que le vivant. Il y a le vivant, il y a aussi, disons, les lois physiques. Il y a de la nature dans toute matérialité des lieux. Donc, le suivant. Alors, du coup, ça donne une autre vision, si vous voulez, une autre vision de la... Là, vous n'avez pas trop le détail, mais par le carroyage, on a fait une description, en quelque sorte, de Rouen, une description qui renvoie à toutes ces natures, si vous voulez, toutes ces natures présentes dans chacun des carreaux du milieu de Rouen. Alors, là-haut, en bas à droite, vous avez la présence du dioxyde de carbone. Là, vous avez les animaux d'eau. Mais ce sont des exemples. On a fait beaucoup de cartographie des éléments. Là-haut, vous avez, au contraire, on pourrait dire, la nature végétale qui est en eau. Et puis, ensuite, une carte de synthèse, qu'on appelle la carte des substrats naturels, et qui montre, en quelque sorte, que on a la suivante, s'il vous plaît, on a une mosaïque. Ah ben, il y en a une qui a sauté. Ah oui, une mosaïque de milieu intégrée à la structuration spatiale générale. Donc, mosaïque de milieu, c'est la carte centrale, qui finalement correspond un peu à nos catégories, les catégories avec lesquelles on travaille sur la ville, le centre, la périphérie, les quartiers résidentiels, etc. Ça représente à peu près, mais en même temps, chacun des blocs, si vous voulez, est lui-même une mosaïque. Et ça, c'est quand même important, donc, du point de vue des pistes de réflexion. Bon, ensuite, une durabilité indéterminée à l'échelle du temps. Alors là, c'est simplement, malheureusement, les architectes ne sont pas là, mais ils nous ont beaucoup appris, en fait, parce que leur regard, finalement, à partir, quand on a fini le travail, quand on a tout pour croiser nos propres réflexions, eh bien, d'après eux, ils diagnostiquaient que c'était l'immeuble de la zone verte, c'est-à-dire l'immeuble construit par Michel Lotz, qui était probablement celui qui passerait le temps, si vous voulez, et non pas les autres. Parce que alors, vous n'avez rien pour le dire, mais il passerait le temps, parce que finalement, c'était une combinaison d'une structure architecturale et matérielle, et de certaines localisations, de présence quand même, de présence d'habitants qui pouvaient avoir la liberté de faire des jardins, et que finalement, c'était probablement la souplesse. Pas qui a parlé hier matin de souplesse, c'était probablement cet îlot-là qui était le plus souple et donc le plus proche d'une certaine durabilité. Ensuite, alors du côté des habitants, alors on a tenté, si vous voulez, vers une identification de la relation entre les cultures de la nature. Ce que j'appelle les cultures de la nature, si vous voulez, c'est au fond, et je vais me rapprocher de ce qui a été dit sur Philippe Descola. Justement, Philippe Descola, il nous étudie les Wachi, les achats, le totémisme, l'animisme, etc. Et puis finalement, que connaît-il et que connaît-on, y compris d'ailleurs pour le Canada comme pour la France, mais que connaît-on de nos cultures de la nature? A-t-on vraiment réfléchi sur la manière dont les gens ont un rapport à la nature et comment ils ont... N'est-on pas toujours dans un stéréotype et dans une idée que on sait pour vous comment vous pensez de la nature, vous pensez que nous sommes des démiurges, vous pensez que la technique va tout nous résoudre, etc. Et pourquoi ne sait-on pas dans le détail des attitudes d'anthropologie, finalement, l'anthropologie de nos sociétés, deux nos sociétés modernes, post-modernes, post-industrielles. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est-à-dire d'aller vers une identification des cultures, de la nature, parce que dans notre idée, il y a probablement une relation entre ces cultures de la nature et les comportements écologiques, qui sont quand même un des éléments importants du développement durable. C'est-à-dire, l'habitant, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il réagit ? Alors voilà, la suivante. Donc on a fait avec ce qu'on a sur notre échantillon, ça n'a pas valeur générale, ça n'a valeur que d'exploration. Alors évidemment, les types de comportements. Alors le comportement, alors on a fait l'idéalisme et le pragmatisme d'un côté, et de l'autre côté, individualisme et collectif, si vous voulez. Alors, ce qu'on a appelé le réfugié, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens, je crois que ça va rejoindre des observations qui ont été faites, il y a un certain nombre de gens qui vivent très mal dans la ville, qui vivent très mal, soit parce qu'ils sont d'origine rurale, soit parce qu'ils se sentent mal dans leur travail, ou leur non-travail, etc. Ils vivent très mal la ville. Et du coup, ils se réfugient dans leur logement. Le seul endroit qui soit un endroit qui est autonome, où ils ont une certaine exercice de leur... Eh bien, c'est leur logement. Et en fait, dans ce logement, du coup, la nature est ailleurs. La nature, elle est loin, elle est très loin, si vous voulez. Elle est, et c'est ça explique aussi pourquoi, y compris les espaces verts des bars et des tours, si vous voulez, ne sont considérés pas comme de la nature, parce que c'est une question mentale, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a un rapport, le rapport à la nature, ce n'est pas que du rapport au visuel, c'est du rapport au sensible, c'est du rapport au bien-être. Alors, ensuite, je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a aussi celui qui est le phobique idéaliste. Alors celui-là, ce profil-là, c'est celui, si vous voulez, qui de toute façon ne voit la nature que dans le symbolique de la nature, c'est-à-dire l'idylle de la nature, la montagne, la mer, l'ours, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui va lui dire que moi aussi je fais partie de l'espèce humaine et je protège les animaux. Et du coup, il est très... Ce n'est pas du tout forcément le meilleur comportement non plus. Parce que lui, si vous voulez, alors on a eu des exemples aussi comme ça, de personnes qui ont un très beau logement avec jardin à l'intérieur de Rouen et qui n'ont qu'une idée, c'est de partir dans leur résidence et de vivre dans leur résidence parce qu'elle est dans la nature. Et même si cette nature-là, elle a du bruit, elle a de la pollution, etc., mais ça n'a pas d'importance, c'est mental, etc. Le fonctionnalisme calculateur, alors ça, c'est, on me dit, c'est plutôt les hommes. Hein. Plutôt les hommes, vous la lire, les hommes, alors, ils ont un rapport à la nature et au milieu de vie, si vous voulez, qui est très, très, très matérialiste, on pourrait presque dire. C'est-à-dire qu'ils y voient une fonctionnalité. Alors, être bien desservi, être bien, etc., mais très peu de sensibilité à la nature. Et enfin, l'habitant éco-sensible, évidemment, qui est un petit peu le modèle. On aimerait bien qu'il soit un peu dominant et que cet habitant éco-sensible soit dans toutes les classes sociales, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement réservé à la classe, disons, élite, mais celle-là, appropriation de l'environnement, depuis le logement jusqu'au recoin des lieux parcourus, c'est-à-dire que tous les lieux, y compris le dedans, le dehors, c'est-à-dire tous les lieux sont appropriés et sont repris dans une sensibilité. Et dans, on pourrait dire, dans un aspect. Voilà. Alors, je passe sur ça, je passe sur la suivante. Ça a été fait sur Paris, mais par une de mes doctorantes, Région. Je passe. Et c'est pareil, c'est la même idée du classement. Alors, donc, effet positif, jeu d'échelle, va-et-vient entre les points de vue du dehors et du dedans. Oui, ce que je crois qui était très positif dans cette recherche, c'est finalement l'apport des regards, des points de vue. Les géographes les géographes ont été vers l'intérieur du logement, curieusement, alors qu'en général, ils ne sont pas, ce sont plutôt des gens qui présentent des cartes, qui présentent des... Et c'était eux qui allaient, qui étaient les plus intéressés à rentrer dans l'intérieur et la vision de l'intérieur des habitants. Et les architectes, eux, en quelque sorte, qui sont plutôt les gens qui fabriquent de l'intérieur, hein, même s'ils ont des belles façades, etc., mais en principe, ils doivent fabriquer aussi l'intérieur de ces belles façades. Eh bien les architectes nous ont beaucoup apporté sur la vision des lieux, sur les territoires et les lieux, la construction, les fondements symboliques de la construction du milieu. Je pense que là, il y a des choses. Alors, la conclusion, développer la collaboration avec les disciplines fabriquant la ville, architectes et urbanistes, approfondir la recherche, tester la valeur des concepts, approfondir la question des valeurs sociales. Et j'avais envie de dire, bon, puisque proposer un chantier d'observation interdisciplinaire, urbaniste, architecte, paysagiste et scientifique, autour de peut-être deux points, c'est-à-dire sur un projet, c'est-à-dire que le problème ce ne serait pas d'aller décider à la pratique, mais d'être de co-construire les idées avant la pratique, avant la mise en pratique, c'est-à-dire les connaissances qui sont nécessaires, co-construites avant, sur un projet ou au contraire un lieu, parce qu'il faut toujours avoir un lieu qui est un lieu, qui est un projet où il y a les choses vont bouger, et puis un lieu qui est un lieu déjà avec son évolution un peu stabilisée. Voilà, merci.
Merci, Mathieu, pour votre éclairage de des types de nature, des comportements de personnes. J'ai appris que les hommes avaient un comportement matérialiste de la nature. C'est assez marrant. Merci également pour votre conclusion qui va vers un développement de l'interdisciplinarité des professions au service de la cohésion des villes, à l'inclusion des rapports de travail, c'est ce qu'il nous a dit hier soir. Je pense qu'avant de passer aux deux prochains intervenants qui vont rentrer dans la pratique sans, bien sûr, regardant cette vision conceptuelle de la ville, il est peut-être intéressant que vous puissiez réagir aux deux premiers intervenants qui se sont placés sur le niveau conceptuel, ce qu'il y a des questions à leur poser. Quelqu'un veut-il intervenir sur le débat de l'édifier tout à l'heure sur la densité, oui.
Mon adresse surtout à Olivier Giroud. Il a parlé de densité, il est arrivé publiquement à ce chiffre, ce calcul politique de clairement cochement à l'État. Alors, j'ai deux questions en fait par rapport à ça. C'est d'une part, donc c'est un calcul de moyenne, mais la ville, effectivement, elle est constituée de quartiers, d'espaces. Densité extrêmement variable. Alors, donc, je pense qu'on ne peut pas se limiter à un calcul d'une densité moyenne. Quand on parle effectivement d'une densité acceptable, c'est finalement c'est de savoir, quand on va à l'échelle du quartier, est-ce qu'il y a une approche qui va aller plus loin pour savoir quelle est la densité acceptable sur la lune. Je m'interroge sur le fait de d'une part, pour savoir si finalement s'il y a une densité acceptable à l'échelle d'un quartier, d'un espace déterminé. C'est une première question. La deuxième question, c'est sur cette question de densité et de mobilité. L'espace qu'on n'a pas dans la ville dense, on l'aurait, on va écouter son propos, à l'extérieur. Donc, l'espace de loisirs éloigné vient effectivement compenser une absence ressentie de l'espace de proximité. Je voudrais savoir sur quoi il était de son propos aujourd'hui, professeur.
Sur le premier point, donc, je dis les limites de ma méthode, donc c'est des moyennes globales. On voit bien que les quartiers sont plus différents, mais à l'inverse, on a plein d'études qui montrent qu'on peut avoir ces densités-là, soit avec des tours, soit avec des bars, soit avec la maison de ville, soit etc. Je constate que la typologie des villes en France est extrêmement différente, et dans ce mélange de 4000 à 20 millions de kilomètres carrés, j'ai trouvé une commune dite de France, il n'y a que du pavillon, je dis bien que du pavillon, mais il n'y a que ça. Et des communes dans lesquelles il y a très peu de pavillons, essentiellement du collectif. Donc ça ne dit rien, heureusement, ça ne dit rien sur ce qui se passe quartier par quartier. Alors sur le deuxième point, les études les plus simples qu'on ait, alors il y a très peu d'études. De bilan global des déplacements des gens, on regarde le domicile de travail, on ne regarde pas le reste. Or, le domicile de travail fait une part décroissante, maintenant c'est moins de la moitié des déplacements. Ce qu'on peut constater, c'est en période de vacances. Il y a des études sur les vacances. Bien, si on regarde les Parisiens prennent beaucoup de vacances en avion, dans les pays lointains, ils consomment beaucoup d'essence, alors que les gens qui sont en maison individuelle, eh bien, il y en a beaucoup qui ne partent pas en vacances. Donc, plus on est pauvre, plus on va en maison individuelle, parce qu'on passe ses vacances chez soi, à s'occuper de son jardin, qui en plus apporte une ressource monétaire. Et donc, il y a très peu d'études globales, mais il faut regarder les choix des gens. On voit bien qu'une spécialisation des villes vers les ménages d'une personne ou les gens liés à la ville, ou les ménages biactifs, et puis le reste, les gens qui recherchent des maisons individuelles, notamment ceux qui ne partent pas en vacances. Donc voilà, mais il y a une extrêmement grande défaillance de toutes les études de mobilité qui constituaient d'accès sur le domicile de travail avec un nombre infiniment trop faible de balances sur l'ensemble de l'année et l'ensemble des périodes de la vie. Donc à la limite, on regarde là, les arbitrages des gens, on essaye de déduire ce que les gens voient pour l'optimisation pour eux.
Oui,
vous avez
Moi, je crois que tous les travaux qu'on fait actuellement sur les densités et la codification sont indispensables, mais je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ce que ce débat reste entre techniciens, parce qu'il est parfaitement compris par les politiques et par tout le monde. Son densité est sale aujourd'hui. Je voudrais rappeler que les premières études sur les densités urbaines, ça date de 1974, au niveau du schéma directeur 76 sur la route parisienne, où le point avait initié le fameux cahier de l'IRP de ce plan de 74 sur la densité urbaine parisienne, et le débat était parti sur le point des tours. Dans tous les sens, on va dire, les mémoires quand même ne vont pas les oublier. Donc 20 ans plus tard, le débat est toujours là, et on s'aperçoit qu'on n'a pas avancé et qu'on est dans des débats qui sont complètement piégés. Parce que cette notion de densité n'est pas comprise. Alors, je crois que techniquement, on a besoin, effectivement, de ces outils, mais c'est exactement comme quand on fait un électrocardiogramme ou un électrocardiogramme. On voit les applications, c'est pas pour ça qu'on peut faire que ça sorte le diagnostic automatiquement. Moi, je crois que ce qui se cache derrière la notion de densité, c'est quand même déjà la fabrication de la ville, et qu'on est aujourd'hui incapable de sortir de ce piège de la densité et de montrer que la ville, ça se fabrique. Justement, de la densité, mais il faut le présenter autrement. Quand on prend les villes anciennes avant la révolution industrielle, les villes de Tiscadie et Victor étaient très denses. Jamais se posait le problème de la densité. Personne ne s'est jamais préoccupé de savoir. Tous ceux qui revendiquent le quartier ont la nostalgie du passé. Vous avez la portée de ville moyenne, vous avez des villes très denses au niveau tissu urbain. Or, d'un côté, on réclame de la ville, de la vraie ville, et en même temps, on est dans l'idéologie de l'opposition de lotissement entre le banlieue et la ville. Bon. Donc, je crois que derrière ça, c'est la question de la progression de la ville. Tant qu'on n'arrivera pas à démontrer que les modalités sont meilleures, ou peuvent être au moins aussi bonnes, que dans des tissus fabriqués de manière un peu dense, et qu'on montrera. On ne montrera pas les avantages, les aménités qu'apporte cette notion de densité, sur le plan transport, sur le plan service, sur le plan service. On parle de la limite, on ne fait pas de la limite à l'aboutissement. Donc ça serait ça notre zéro. Donc je crois qu'il faut qu'on dépasse ce débat au niveau des politiques, au niveau de la culture européenne pour expliquer, parce qu'on arrive dans des débats qui sont des querelles, exactement comme théologique qu'on a connu de notre passé. Je pense qu'on sait tous très bien aujourd'hui que dans n'importe quel tissu urbain d'une ville, on a des densités 4 fois, 5 fois, 6 fois plus élevées que dans n'importe quelle partie de la ville périphérique. Mais ça n'est pas perçu par les élus et par les habitants. Donc, il faut effectivement faire des recherches de ce qu'on peut imaginer, mais je pense que concrètement, ce qui nous manque, ce sont
des exemples précis de fabrication de morceaux de ville où effectivement on arrive à donner des indemnités supérieures par rapport à des super-effets.
Voilà. Oui, alors, je remercie Francis Cullier pour l'intervention très intéressante. Je voudrais lui dire que je suis en désaccord total et absolu. Non mais c'est classique entre nous. Ça va être des discussions intéressantes avec des désaccords. Puis un certain nombre de décennies, mais tant mieux. Pourquoi ? Pour moi, ce débat est un débat d'abord qui doit être public. Parce que je vais prendre un exemple très simple. L'exemple du schéma directeur de la région Île-de-France. En 1994, il a été fait au nom de la Nancy. Le schéma directeur disait on va diminuer l'espace, la consommation d'espace, avec des phrases absolument géniales, le tissu urbain doit accepter de se densifier. Pour le tissu urbain. Bien, le résultat, c'est qu'on a étranglé les constructions. Partout en ce moment en France, la construction est remontée à une moyenne des années 75 à 400 000, sauf en région Île-de-France, où la construction diminue. Alors que les objectifs étaient de 60 000, ramenés à 50 000, on n'est même pas à 40 000. Et sur les 12 derniers mois, l'Île-de-France est la seule région dans laquelle le rythme de logement a commencé à diminuer. Donc, quand je vois ce qui se passe, les immeubles qui flambent au Austerlitz, quand je vois le squat de Cachan, c'est la conséquence directe de tous les discours sur la densité, sur la densification et sur le terrorisme intellectuel que développent les urbanistes autour de ce thème de densification. Alors que les urbanistes n'aient pas envie de débattre, je les comprends, le peuple non plus, mais le peuple, lui, y répond. On voit bien que l'offre des villes, sans évidence, est une offre très importante pour certaines clientèles, mais il y a d'autres offres qui sont importantes, et notamment toutes les familles avec enfants. Car les enfants ont besoin d'espace, et bien les enfants, et pour moi mes petits-enfants, ils ont besoin d'espace pour la trottinette, sauter la corde, taper dans un ballon. En ville dense, c'est dur. Il y a également une demande importante qui est la demande de sécurité. Ben, la demande de sécurité, ce n'est pas les trottoirs de la ville dense, c'est des maisons individuelles. Et c'est pour ça que opposer les tissus urbains n'a pas de sens. Il y a des demandes diversifiées, avec des réponses diversifiées, mais vouloir généraliser à tout le monde ce qui est une réponse pour un certain type de population, non. Et les réponses au passé, je les réfute encore plus. Il faut bien voir qu'à une certaine époque, l'espérance moyenne de la vie est à 50 ans, la moitié des enfants mouraient avant 10 ans, et il y avait en moyenne 2 personnes par pièce, y compris la cuisine. Pourquoi les villes s'étendent ? Parce qu'on a augmenté le confort des gens. Pour ça, je prends le titre de confort spatial. Alors moi, ce que je souhaite, c'est un urbanisme qui prenne en compte la demande de confort spatial, qui ne les enferme pas dans les cartons qui avaient débouché sur les densités qu'après on démolit à coup de subventions depuis un siècle et demi.
Bien. Merci, Olivier. On va voir un peu.
Je ne peux pas dire que la construction en France a augmenté. Après, elle dort bien. Et la crise aujourd'hui du logement parisien, elle est quand même par le fait que dans toutes les villes aujourd'hui, il y a 80% des constructions qui sont du nord de deux ans. C'est là pour
faux, faux. La relance est d'abord.
Je vous montre les chiffres.
Non.
Toutes les villes de province, 80% du nord de ces dernières années.
C'est faux. Pour une dernière intervention, Nicole Mathieu, avant de passer la parole de notre intervention.
Bon, du coup, j'essaye de m'infiltrer dans la... Parce que justement, je crois que au fond, ces débats-là, il faut accepter plutôt de revenir aux habitants, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils sont. Et s'il n'y a pas ce retour-là, s'il n'y a pas cet effort de fait, vous serez entre idéologie de la ville compacte et idéologie de la nature en ville. Et or, ces deux choses... On est entre deux idéologies. On n'est pas à l'écoute et à la compréhension des choses dans leur. Moi, je crois que si pouvait y avoir au lieu de ces débats, c'est vous-même qui avez dit que c'était des débats byzantins, si vous voulez. Bon, ben non. Il faut sortir des débats byzantins. Il faut en sortir en ayant de nouvelles connaissances. Parce que le développement durable, à mon avis, la question du développement durable, nous oblige à sortir de nos façons de penser. Ça nous oblige à dire, à ne pas dire ville compacte égale ville durable. Ça nous oblige à dire ville nature n'est pas ville durable. Ni l'une, ni l'un, ni l'autre ne sont villes durables. La ville durable, on l'a devant nous. Les quartiers durables, on les a devant nous. C'est nous qui les fabriquons.
Bien, merci Paul Mathieu. Je reprends la conclusion du chapitre 16 de votre livre, qui était le thème de votre intervention, le livre que vous pouvez peut-être présenter au... Je crois que vous l'avez sur vos genoux. Dans votre conclusion du chapitre 16, vous dites « La ville durable est avant tout construite par ses habitants qui en sont les premiers acteurs ».
C'est très bon livre, très très bon livre.
Et je pense que c'est idéal pour parler maintenant de nos deux prochains intervenants. Je vais commencer par Pierre Lécuel, qui va nous parler de la quartier durable, de l'expérience de l'éco-quartier de New York Soy. Alors, je ne dis pas comment ça s'écrit, mais vous voyez, enfin, voilà, ça se prononce sur York Soy, c'est près de Aarhus, au Danemark. Pierre Lécuel est consultant en environnement, il habite au Danemark, son bureau d'études s'appelle Ecotech, et il est écologiste convaincu et militant. L'expérience de la construction du quartier vous en convaincra. Allez, la parole.
Merci. Donc, Pierre Lécuel, lui, consultant. Ça fait 20 ans que j'habite au Danemark. J'étais très engagé dans ce projet d'éco-quartier. C'est ce qui m'a donné, en fait, toute la connaissance que je vais essayer de transmettre partiellement aujourd'hui. Alors, c'est très bien, Madame Mathieu a parlé justement, ce sont les habitants qui doivent façonner le quartier. Et c'est vraiment un exemple concret que je voulais vous présenter. C'est une réponse, c'est un point de vue, une réponse, c'est une présentation de ce que nous voyons de la nature, ou je dirais même de l'environnement, parce que la nature c'est peut-être un peu trop limité, l'environnement dans la ville, qui est le thème de ce séminaire, et en même temps, ça présente, je vais présenter un développement durable, un quartier qui se développe durablement, et en même temps un exemple alternatif d'organisation de la ville, qui est le thème un peu de cet atelier. Alors pour nous qui avons initié le projet, l'éco-quartier c'est un lieu où on va essayer de rééquilibrer le rapport entre l'homme et la nature et donc d'essayer de réduire, de minimiser l'empreinte de l'être humain sur la planète. Alors c'est bien sûr à partir d'un certain nombre de constatations que vous connaissez maintenant qui sont assez bien ancrées dans les débats. 50% de la consommation d'énergie se passe dans la maison, hein, c'est là où il y a une très grosse consommation d'énergie. 60% de l'eau consommée dans le pays, que ce soit d'ailleurs au Danemark ou en France, est consommée dans la maison. 2/3 des déchets qui sont produits, ils sont produits par la maison. Alors c'est bien sûr au travers des matières de construction, c'est-à-dire le mode de construction, que ce soit les rejets liquides, les eaux usées, ou bien les déchets ménagers. Donc au travers de quelques diapos, ça va aller assez vite. Je vais essayer de vous donner un cliché instantané de ce quartier. Alors je dirais que pour essayer de voir cet exemple-là, il faut presque avoir des yeux d'enfant, c'est-à-dire qu'il faut oublier tous les préjugés qu'on peut avoir par rapport à comment on construit, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible, et oui c'est possible là même, mais c'est pas possible ici, etc. Un petit commentaire avant de commencer le diaporama, c'est que l'éco-quartier n'est pas seulement un lieu qui produit de l'écologie, je dirais, matérielle, c'est-à-dire construction écologique, production écologique, consommation bio, etc. C'est aussi une tentative d'expérimenter des nouveaux rapports entre les habitants, mais aussi entre les habitants et la ville. Alors la ville comme institution, les pouvoirs publics, les services, etc. Donc un nouveau rapport où le citoyen s'engage beaucoup plus et du coup a une plus grande influence sur le façonnage du quartier. Donc deux petites parties, le fonctionnement de l'éco-quartier et puis j'essaierai dans les derniers diapos de parler un peu qu'est-ce que l'éco-quartier peut... Est-ce qu'il a un avenir dans la planification urbaine. Donc photo suivante. Alors, le Danemark, très vite, hein, vous savez où il se place, au nord de l'Europe, une petite péninsule, Hjortshøj qui est dans la banlieue de Aarhus, Aarhus, la deuxième grande ville du Danemark, 300 000 habitants, donc nous sommes dans la banlieue, un petit village dans la banlieue de Aarhus de 3 000 habitants, et nous sommes un quartier de ce petit village. Alors, C'était très bien l'intervention de Mme Mathieu, parce que ça corrobore ce que nous avons vécu concrètement. Un écoquartier, il y a 200 personnes actuellement. Oh. Comment ? Je ne peux pas le sortir, non ? Donc, moi, je dirais qu'il y a trois gens même, pour qu'un écoquartier puisse fonctionner. C'est pas simplement mettre des capteurs solaires ou utiliser de la peinture bio. Il faut donc produire du développement durable, c'est-à-dire tout ce que nous produisons, tout ce que nous réalisons, c'est avec des lunettes du développement durable, mais il y a aussi une vie économique et il y a une vie sociale. Ce sont vraiment les trois gens qui portent un écoquartier. Donc concrètement, alors la photo suivante, s'il vous plaît, une mixité importante, nous ne sommes pas intéressés à réaliser un petit ghetto, un petit paradis pour une petite élite. Nous voulons être, je dirais, le miroir de la société, et donc il faut aussi avoir, il faut que toutes les populations aient accès à ce projet-là. Donc nous avons une mixité importante dans la mesure où nous avons des bailleurs sociaux qui ont construit des bâtiments. Alors là aussi, c'était des processus très longs, parce que c'est des bailleurs sociaux qui vont être acceptés, qui sont obligés d'accepter que les futurs habitants des HLM participent à la création du bâtiment, choisissent les matériaux, disent comment ils veulent, au niveau des flux, comment les flux vont fonctionner, comment ils veulent s'organiser, etc. Nous avons des copropriétés et puis nous avons aussi des maisons individuelles. Alors nous sommes organisés en groupe d'habitation. Pour l'instant, nous avons 5 groupes d'habitation de 10 à 25 familles et le tout est supporté par l'association. Alors dans les groupes d'habitation, ce sont vraiment des lieux où le quotidien est géré. Hein. Alors il y a des lieux de vie commun, des maisons communes, hein, ce sont des lieux de rencontre importants. Donc 5 groupes d'habitation, 5 maisons communes. S'il n'existait pas, bien sûr, beaucoup d'activités ne seraient pas possibles. Ce sont des lieux d'activité de rencontre très importants. Beaucoup de projets qui sont nés là, dans ces lieux de rencontre, des lieux de rencontre. C'est un reflet de la vie sociale et un lieu d'expérimentation. Suivant, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lieux de vie commun? C'est des lieux où on mange ensemble. Hein, alors, ce qui peut, par exemple, au niveau des repas communs, c'est chacun qui s'inscrit, combien de fois il veut manger par semaine, et tout est géré en fonction, je veux dire, de l'individu. C'est-à-dire, on fait à manger en fonction du nombre de fois qu'on mange, et on paye pour chaque fois qu'on mange. Donc, c'est très individualisé. En même temps, on a une vie commune. Elles servent encore à des repas communs, il y a, je dirais, à peu près 50-60% des habitants qui participent. Il y a des laveries communes, alors ça c'est très commun au Danemark, je crois qu'il y a 60 ou 60% des habitants au Danemark qui ont des laveries communes, c'est-à-dire dans les villes, chacun n'a pas sa machine à laver, on a très souvent une laverie commune dans la cave, donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, nous, c'est qu'on a des locales techniques qui sont alimentées à l'eau de pluie, par exemple. Et puis, il y a bien sûr ces lieux de vie commun, ils servent aux fêtes, aux réunions. Ça permet aussi, je dirais, alors on parlait de densité, de réduire la grandeur des maisons, puisque moi, il y a avoir un salon de 70 mètres carrés pour pouvoir recevoir 40 personnes, je veux me contenter d'un salon de 20 ou 25 mètres carrés, parce qu'à chaque fois que j'ai la famille qui vient, qui est une fête à tenir, j'utilise la maison commune, qui est en plus très bien équipée, et qui permet de recevoir 50 personnes sans problème. Alors, fête, teenager, il y a beaucoup d'activités. Donc, des lieux communs, des entreprises, hein, c'est la vie économique. Donc, nous avons notre entreprise de construction. Elle a participé, elle a planifié et elle a géré un certain nombre d'éléments de construction, de parties de construction. Aussi parce qu'en fait, un certain nombre de souhaits que nous voulions au niveau des matériaux n'étaient pas accessibles sur le marché traditionnel. Donc, nous étions obligés créer ces activités. Photo suivante. Et puis un certain nombre de types de production. Alors là, nous avons par exemple 20 hectares qui sont cultivés biologiquement, bien sûr. Nous avons un maraîcher professionnel qui a son entreprise, qui nous loue la terre, qui produit donc des légumes qu'il vend dans sa boutique sur le village, mais aussi sur le marché de Rousse. Nous avons une agriculture traditionnelle, hein, toujours en bio, alors là, sans blé, lin, l'élevage. Et puis nous avons aussi des services communs, un potager commun. Ça se développe de plus en plus en France. Ça fonctionne de telle manière qu'on paye certaines sommes par an. On doit, c'est 1000, à peu près, ce qui correspond à 1100 francs, 150 euros par an. et on va donner 15 heures de travail, et en contrepartie, on pourra récolter tous les légumes qu'on veut. Donc c'est un exemple d'organisation commune. Donc là, de nouveau, c'est chaque membre qui s'inscrit ou qui ne s'inscrit pas. Donc vous voyez, 70-80% qui s'inscrivent à ce potager commun. Photo suivante. Et puis, des services autogérés. Donc nous avons un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie à plaquettes de bois qui va bientôt aussi produire l'électricité au travers d'un moteur Stirling. Nous allons produire et de la chaleur et de l'électricité à partir du bois qui alimente toutes les habitations du projet du village, donc aussi bien les HLM que les maisons particulières. Nous avons une coopérative de partage, etc., etc. Donc un certain nombre de services autogérés. Photo suivante. Si c'est possible. Alors voilà, ça c'était au niveau de, je dirais, des grands, enfin c'est pas des grands principes, mais des éléments essentiels qui constituent un éco-quartier. Au niveau, quelques exemples très rapidement, qu'est-ce qu'une construction écologique, pour essayer de concrétiser aussi qu'est-ce que nous entendons par développement durable. Ce sont des maisons qui consomment beaucoup moins d'énergie, hein, donc les maisons ici qui ont été construites, c'est des maisons qui ont été construites, on en a une, là, un exemple, qui a été construite en 1992, qui est toujours 25-30% moins consommatrice d'énergie que la nouvelle réglementation thermique du Danemark, qui correspond à la nouvelle réglementation thermique française. Et les prochains groupes d'habitation qui vont se construire d'ici à un an vont se calquer sur la norme allemande, donc le passif à hausse, où là on a une réduction à un facteur de 10 en fait. On parlait de facteur de 4 ou 5 dans notre atelier, là c'est un facteur de 10 au niveau des consommations d'énergie. Donc une maison, pour nous, une construction écologique, une maison qui consomme très peu d'énergie. Photo suivante, s'il vous plaît. Qui utilise des matériaux sains et sans danger pour la nature, alors à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la construction, au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire du climat intérieur, et aussi au niveau des déchets, quand cette maison devra être détruite. Donc nous disons, ouais, un instant, venez, ouais, alors voilà, il y a des briques de terre crue, il y a de la construction bois, il y a des isolations papier, cellulose, ou bien là, comme on voit, de lin, etc. Il y a des plastiques sans PVC, il y a des peintures bio, enfin c'est tout un ensemble, tout un concept. Mais nous sommes allés très très loin au niveau de l'utilisation de matériaux simples. Oui, photo suivante. Et enfin, alors j'ai parlé donc de la consommation énergétique, le choix des matériaux, et puis essayer de recréer des cycles courts des différents flux, hein, c'est-à-dire les eaux, l'énergie, l'alimentation. Alors quelques exemples, nous utilisons des toilettes sèches, hein, c'est pas tout. Il y a différents modèles, il y a des toilettes à compostage, il y a aussi des toilettes qui séparent l'urine du fécal. Il y a des groupes qui traitent leurs eaux grises dans des bassins d'épuration végétale, donc c'est traité localement, ça produit du sol qui ensuite va être brûlé dans la chaufferie à bois. Donc, vous voyez des sites complets de retraitement des déchets. Oui, photo suivante. Un autre exemple de gestion de flux d'une façon locale, c'est l'utilisation de l'eau de pluie pour les laveries communes, donc dans les machines, pour les machines à laver le linge. Alors deux avantages que j'en ai nommé, hein, pour essayer de rentrer un peu dans les détails, économie d'eau potable, hein, d'eau de source, qui est quand même une ressource de plus en plus rare, et puis réduction de moitié de la consommation de poudre à laver, puisque les eaux de pluie sont des eaux douces, ce n'est pas anodin, hein, une très grande charge de pollution aujourd'hui, ce sont les poudres à laver, hein, entre autres. Donc alors voilà, pour aller un peu plus loin, alors qu'est-ce que... Essayer de donner quelques caractéristiques d'un éco-quartier. Alors c'est des projets qui sont basés sur une utopie sociale. Alors maintenant, une utopie, c'est-à-dire c'est qu'on a un rêve, il faut rêver. Je crois que les urbanistes aussi devraient rêver un peu plus. Il faut rêver, il faut penser quelque chose de totalement différent. Il faut penser que c'est possible. Nous, c'est une utopie sociale, elle est maintenant une réalité sociale, puisque le projet est réalisé et se développe. Hein. Nous avons de 200 personnes, et nous pensons que d'ici 10 ans, il y aura à peu près 500 personnes dans ce quartier. Il y a une très forte demande, je dirais. Toutes les réalisations sont faites avec les lunettes du développement durable. Il y a une démocratie participative très, très, très importante. Et un, très grand nombre d'éditions. Alors, vu de l'extérieur, ça peut paraître chaotique, mais c'est ça aussi qui apporte la vie, hein. C'est ça qui donne la vie, c'est ça qui donne un tas d'interfaces, un tas de nouvelles idées. Une décentralisation importante, même dans le village n'a pas, il n'y a pas de conseil d'administration qui décide, en fait c'est plus un organe coordinateur. La plupart des décisions se font dans les groupes de travail, les groupes d'habitation, les gens qui sont en fait qui s'engagent dans le projet. Bien sûr, il y a toujours alors, le type de population qui vient dans ces écoquartiers, c'est des gens qui ont un certain niveau de conscience et qui osent et qui se permettent de remettre en cause certains modes de fonctionnement hein, de notre société. Hein, et donc qui vont essayer de s'organiser autrement. Et puis, comme je vous l'ai montré avant, on a l'intégration d'activités économiques qui sont soit dépendantes ou indépendantes du village, des productions, des services, qu'elles soient professionnelles ou d'autres. Alors, photo suivante. Alors là, bon, alors voilà, là, ça c'était plutôt, c'est peut-être pas tellement intéressant aujourd'hui, c'est un quartier pour quoi faire. J'avais posé quelques questions, est-ce que c'est un retour en arrière? Dans notre cas, en tout cas, ce n'est pas du tout. Hein. On n'a jamais eu de référence comment dire, il n'y a pas de nostalgie à un retour en arrière. C'est vraiment, comme le disait Madame Mathieu, vraiment les quartiers du futur que nous essayons de penser. C'est une solution, hein. Il y en a plein d'autres. Hein. C'est une proposition, je dirais. Il y en a certainement d'autres. C'est une vitrine, oui, parce que de par ce village, nous avons réussi à influencer le politique et puis un tout petit peu, mais c'est très lourd et très difficile, je dirais, la construction des entreprises qui construisent des maisons. Un lieu de vie où d'autres comportements sont possibles, ça c'est vrai, oui. Et un espace d'alimentation, ça c'est vrai aussi, oui. Et puis, il ne faut pas oublier, c'était dit avant, l'écologie, c'est trois choses. C'est l'écologie, enfin, l'écologie, du moins l'écoquartier, c'est l'écologie, c'est l'innovation sociale et c'est l'innovation économique. Et donc, il faut toujours penser les trois éléments en même temps. Je crois que c'est la dernière. Alors voilà, non, il y a encore une. Là, alors, pour la ville, quel est l'intérêt d'initier ou de porter un projet comme celui-ci? Dans notre cadre, donc à la ville de Rouge, elle s'est profilée une image éco à peu de frais. Hein. Il y a eu en 20 ans, ça fait 20 ans que ce projet existe, il y a eu des centaines et des centaines d'articles hein, dans différents médias. Et donc ça a aidé à profiler la ville comme étant éco. Ça permet pour une ville d'expérimenter les nouveaux concepts d'habiter. Hein. Ça permet de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, sur quel point il faut travailler pour que ça puisse s'étendre à une ville. Donc ça permet, c'est un peu un atelier d'implantation. Ça attire une population dynamique de pionnières, c'est pas négligeable quand même. Et ça permet de concrétiser le processus d'agenda 21. Hein. On en parle de plus en plus, mais ce type d'éco-quartier là provoque vraiment des réactions très fortes de la part des services publics. Ça fait bouger vraiment les services communaux. Et enfin, ça renouvelle les relations citoyens-services publics.
Bien. Merci Pierre-Yves de ce témoignage de co-réalisation qui fonctionne depuis 20 ans.
20 ans, oui.
20 ans. Est-ce que l'Écotec intervient en France ou est-ce que vous êtes émigré
Non, j'habite au Danemark. En tant que consultant, je vis de projets. Donc je suis toujours intéressé aussi des projets.
Sur le français.
Je travaillerai sur le français s'il y avait des propositions, bien sûr.
Très bien. Dernier intervenant, Philippe Mott, qui sans doute fera le lien avec les habitants, puisqu'il travaille pour eux. Il est président de la CEDAF, promotion immobilière, qui a 5, 6, 7 agences en France, pour la plupart en région parisienne, je pense, hein, parce que j'ai pu voir.
En ville nouvelle.
Il est ex-élu au Touquet, alors je l'ai mis un petit peu d'autorité. Le Touquet est une ville qui a une histoire particulière, une architecture particulière. On n'est pas élu au Touquet par hasard, et voilà, je l'ai marqué. Voilà. Son sujet, c'est l'habitation en forme de constante d'une nature dans les nouveaux quartiers. Initialement, sur votre papier, vous avez parlé de vie nouvelle, mais il a préféré qu'on parle de nouveaux quartiers que de vie nouvelle. C'est d'ailleurs plus large et moins insistant.
Bien, bonjour. Écoutez, j'ai préparé un petit topo sur le thème qui m'avait été imparti. Et puis, je participe à vos débats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme applicateur des règles urbanistiques, laissant aux urbanistes et aux maires le soin de définir dans quel cadre nous devons travailler. J'avoue que si le public était là, si les maires étaient là, ils seraient totalement estomaqués par le débat fondamental qui a eu lieu il y a quelques instants, parce que généralement dans ces congrès, on apporte des idées quelque peu à la marge, et il y avait ici un débat totalement fondamental entre deux grandes autorités de l'urbanisme et de l'aménagement français, à savoir M. Piron et M. Piron qui avait déjà été précédé par un bain en décès de quelqu'un qui venait de Montpellier. Et puis M. Cuillet, porteur de la plupart des idées développées par les grandes villes françaises, idées que je vois plus dire tout de suite, je partage plutôt. Mais donc je vais continuer mon exposé plutôt pour les amis de M. Cuillet que pour les amis de M. Piron. Ceci dit, ce qu'a dit M. Piron est un constat. Est-ce que ce constat est satisfaisant? On constate en Espagne, par exemple, je ne sais pas si c'est aussi mal logique que ça là-bas, les villes me paraissent, mais je ne sais pas les statistiques que M. Piron me paraissent beaucoup plus denses, et que je constate aussi, à la faveur de différents voyages comme vous-même, c'est que nous sommes globalement beaucoup plus conservateurs que dans la plupart des pays d'Europe. Quand vous baladez dans le Vorarlberg, en Hollande, en Suisse, au Canada peut-être, excusez-moi pour l'Europe, vous avez des options beaucoup plus contemporaines que celles que nous rencontrons en France. Alors, les responsables, forcément, je vais vous dire que ce sont les autres, sont les maires, mais et leurs conseillers que vous êtes, les responsables aussi, c'est nous-mêmes. Si nous-mêmes créateurs de logements ou de bureaux, je suis très, très frappé par la différence qu'il y a entre la production d'un produit qui est extrêmement connu, à savoir l'automobile, et le logement. En automobile, quand vous avez une métrique à 4 ans, vous avez l'impression qu'elle est totalement obsolète, tellement les producteurs d'automobiles arrivent à vous faire croire au bout de 4 ans que leurs nouveaux modèles sont tout à fait saisissants dans leur ligne et dans leurs caractéristiques techniques. En logement, il y a des différences entre un logement d'aujourd'hui et un logement qui a 30 ans, en dehors de quelques centimètres ou d'isolant, je vois très très peu de différence. Je suis très frappé, encore une fois, de la faible, du caractère absolument non révolutionnaire, je dirais, de l'habitat en France en particulier. Mme Mathieu nous disait tout à l'heure, la vie durable est devant nous. Je partage tout à fait son point de vue, mais il s'agit d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, si vous voulez bien, ce préambule étant fait sur cette explosion à laquelle j'ai participé tout à l'heure et qui m'a saisi, je vais revenir à ma petite musique que j'avais préparée à votre intention sur le thème du concept de la densité, de ce que j'appelle la recherche de la densité verte. Alors, cette densité, d'abord, elle est assurément sur le terrain pas partagée par la totalité des maires français, et loin de cela, car je considère, enfin, pour moi, pour préserver la nature existante qui est un bien rare, il vaut mieux densifier, ce qui n'est autrefois pas partagé par tous ces maires. Et pour densifier, c'est souhaitable, autrefois, sous toute réserve, d'augmenter les COS, et surtout d'obtenir que dans les mairies, lorsqu'il y a un COS affiché, le maire, dans un deuxième temps, ne dise pas écoutez, les voisins souhaitent qu'on n'aille pas trop loin, je vous demande d'être 10, 20, 30, 40% en dessous du COS autorisé, comme ça se passe extrêmement fréquemment. Moi, comme on a peut-être pu vous le montrer sur cette diapo, nous réalisons beaucoup d'opérations groupées de logements individuels denses, jusqu'à certains d'entre vous hier ont vu une opération de logement patio avec un COS 06 en patio à Vinodinsk. Et dans la plupart des PLU que dans lesquels nous devons travailler, il y a des règles de prospect qui empêchent cette densité. Le COS peut être affiché bonne densité, mais on a un PLU que je qualifierais de traditionnel, c'est-à-dire que, assurément, sur la plupart des PLU de France, on ne peut pas reconstruire le Mont-Saint-Michel. Bon, naturellement, c'est peut-être trop dense le Mont-Saint-Michel, mais ça peut répondre quand même à une attente de certaines municipalités. Alors, dans le cas où cette densité augmentée serait autorisée, je vais développer le concept de la densité verte. Il y a un terme qui a été utilisé dans un exposé de fin de matinée par les représentants des Canadiens. Il parle de nature-urbanité, c'est-à-dire inscrire la nature dans le sens français du terme, dans l'urbanisme, partout où c'est nécessaire. Partager le point de vue du professeur Arnoux hier qui disait que c'est pas même mettre la nature partout. Les centres-villes d'aujourd'hui qui se sont considérablement qualifiés n'ont pas besoin d'une qualité supplémentaire sous forme de nature. Il y a tellement de qualité aujourd'hui dans nos belles villes occidentales, au centre des belles villes occidentales, que se permet d'ajouter quelques fleurs ou quelques-uns. Donc mon propos concernera plutôt le périurbain ou ce qui se trouve à une certaine distance des centres-villes. Bon, le thème sur lequel on m'a demandé d'intervenir, c'est la mise en pratique de des orientations. Donc j'arriverai à quelques propositions concrètes. Certaines ont déjà été évoquées, mais elles ne sont pas toujours partagées. La première, lorsque vous voulez mettre une certaine densité dans la ville, je trouve que pour que ce soit digeste pour les habitants, parce qu'il y a une partie de la population qui est réservée vis-à-vis des éléments de densité, surtout ceux qui ont la chance déjà généralement d'avoir un logement. Bon. Donc il s'agit de rendre digeste des nouveaux exemples, je dirais, d'habitat dense. Une préconisation, c'est de mettre quasi systématiquement une petite interface verte entre le bâti et la rue. Je l'évoque ici, surtout en ville de Lille, où je ne sais pas s'il y a des représentants lillois ici. Non, bon. Donc pour ne pas porter la contestation. En ville de Lille, on nous demande toujours de mettre le bâti au contact du trottoir. J'avais bien la proposition de Mme Cohier qui consistait à mettre en place ce qu'elle appelait des jardins trottoirs. Je crois que ça rend le bâti, ça rend le béton certainement beaucoup plus aimable. On voit ça fréquemment, régulièrement à Bâle, en Hollande, à Londres même, où il est très fréquemment dans cette grande ville dense de Londres. Le trottoir, une belle grille, un ou deux ou trois mètres de végétation et le bâti. Je suis persuadé que le public trouve ça particulièrement sympathique. La deuxième chose qui est en cours de développement, ce sont les façades végétalisées sur les bouts de bambou du côté de la porte d'Anières. C'est une orientation qui est certainement très intéressante, et en tant qu'économiste, je veux dire que normalement ça ne doit pas coûter cher. Ça ne doit pas coûter très cher, et ça en vaut fortement la vie. Bon, il y a les toitures végétalisées, je ne sais pas pourquoi, effectivement, il n'y a pas dans certaines villes, quasi-obligation de recourir à cette option qui me paraît tout à fait intéressante. Autre proposition concrète, ce sont des poches vertes dans ces zones d'habitat dense, repérables depuis les espaces publics, depuis les voies. Naturellement, quand on vous demande de mettre le bâti au contact de la rue avec un système géofermé, on ne voit pas ces potentialités vertes qui se trouvent en cœur d'Illo. Donc pour ma part, je pense que l'Illo peut-être pas totalement ouvert, mais semi-ouvert est certainement une très bonne orientation, encore une fois pour rendre digeste, parce que c'est toujours ça l'élément important, rendre digeste la densité auprès de la population. Et je reviens donc sur ce sujet-là. Ce qu'il faut, c'est convaincre que la forte densité, si elle est correctement traitée, si elle est verte en particulier pour répondre aux fortes attentes de la population, il faut convaincre la population à travers des exemples réussis et ceci le plus vite possible. Il faut convaincre les maires. Je vais donner un exemple qui est bien connu. Les associations vertes en particulier qui sont réservées sur ces sujets-là, il faut voir les difficultés qu'a le maire de Paris à développer des programmes de tours, même dans certains secteurs périphériques de sa ville. Malheureusement, il n'y a pas de représentant de Lillois, mais ici, par exemple, à 1 km d'ici, il y a un superbe site auprès d'un canal, dans le cadre d'une friche industrielle à rénover. Et là, il était prévu finalement un concours avec une faible densité. Je trouve ça pour ma part un peu dommage parce que pendant ce temps-là, la ville se développe. Nous faisons des lotissements, je dirais non citoyens, à 30 km de ville, avec des prix parcelles extrêmement élevés. Que je mette ces habitants à 1 km d'ici dans des tours de 35 niveaux comme ce qui a été proposé par les experts canadiens tout à l'heure, mais au moins sur 9 niveaux au lieu des 3 niveaux, je dirais préconisé. Bon, voici ce que je voulais vous dire Donc je suis presque un peu gêné d'avoir parlé de sujets mineurs par rapport aux sujets considérables qui devraient être le préalable, je dirais, à toutes ces discussions. Est-ce qu'il faut faire une ville dense ou pas dense? Et ensuite, il faut savoir comment la dessiner. Merci.
Merci Philippe. On se retrouve bien dans vos réalisations et je pense que la mise en pratique est tout à fait conforme. Alors, maintenant, on passe à une question avec une contrainte que je ne dis plus parce que je vais être parti hier. Nous devons nous reprendre à 14h. On demande de vous dire tout de suite que le retour se fait à 14h. 14h dans cette salle, c'est des ateliers. Alors, une question, oui.
Deux personnes qui pensent qu'il faut faire quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça, et une initiative d'un cours du soir. La grande surprise, il y a 50-60 personnes qui se présentent, et puis très vite, ça débouche sur un projet de concrétiser, en fait, et de montrer aux politiques, et de montrer à soi-même aussi, expérimenter soi-même, voir est-ce que c'est possible de réaliser donc, un éco-village. Donc c'est vraiment une initiative citoyenne. Il n'y a eu, dans tout le développement du quartier, aucun urbanisme qui a été consulté, ni pratiquement pas d'architecte. Donc il y a vraiment une gestion pratiquement totale des citoyens. Alors au niveau financier, il y a eu des très gros problèmes financiers parce que les banques et les instituts privés ne pouvaient pas financer ce genre de construction. Hein. On parle des fins des années 80, personne n'y croyait. Même au Danemark, c'était vraiment très très provocateur. Donc très très gros problème pour financer ces maisons, mais bon, ça finit par être financé par des instituts de crédit, des banques, des prêts, et puis les bailleurs sociaux qui ont leur propre
ressources. Donc le financement, il se fait comme on financerait d'autres bâtiments dans le village, dans la ville de Rousse. C'est nous, oui. Alors nous avons voulu mixité, donc nous avons. Nous, c'est ce groupe de citoyens qui organise une association, hein, qui s'appelle la NSAPO, ça veut dire la société autogérée en fait. Hein. C'est nous donc, qui définissons un projet. Nous avions un groupe de gens qui ne voulaient pas construire de maison pour différentes raisons, économiques, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, hein, 25% de la population danoise vit seul, on ne construit pas une maison, on vit seul. Donc il y avait vraiment un intérêt à avoir des logements locatifs. Nous avons défini un projet, nous avons pris contact avec les associés, les bailleurs sociaux. Alors ça s'est pas fait facilement. Le premier projet d'HLM a mis 7 ans à se réaliser. Le deuxième un peu moins, 4 ans. Donc il y a aussi beaucoup de résistance, beaucoup de résistance à être accumulée. Il faut vraiment travailler en professionnel hein, pour pouvoir argumenter et avancer avec le projet. Et puis, ben, finalement, maintenant, je dirais que le dernier projet qu'on a eu, les bailleurs sociaux, ils se bouffent presque, parce qu'ils voient, il y a peut-être la possibilité d'expérimenter, d'avancer, de développer des concepts qu'ils pourront ensuite appliquer à l'IA. Et là, ils le font avec des gens qui sont volontaires.
Et les terrains, ils avaient été acquis par les
habitants?
Oui. La totalité des parcelles?
Non. Alors là aussi, il y a tout un travail, de politique avec la ville. Hein. Présenter le projet en 88, on le présente à la ville et à notre grande surprise, nous on demandait 100 hectares parce qu'on voulait aussi faire la culture et se développer, donc faire un développement possible pour 500 personnes. Et nous avons proposé 3 terrains en fait. Moi je trouve que le plus intéressant par rapport au transport collectif, à la possibilité de se développer. Et nous avons pu acquérir des petits morceaux de terrain qui étaient plus ou moins réservés pour nous, on les a acquéris au fur et à mesure. En effet, au niveau financement, c'était un plus qu'on a eu grâce à la ville.
Peut-être de Rock, architecte urbaniste, toujours sur le projet de Russe. La première question, c'était la relation avec la ville, donc les institutions, vous en avez parlé un petit peu, mais avec les voisins. La question est aussi par rapport à l'université, est-ce que vraiment il y a une ouverture qui se fait par rapport à la ville avec les autres habitants de la commune? Et puis aussi le retour par rapport aux enfants qui maintenant vont avoir une vingtaine d'années, comment vit-il et comment ont-ils évolué par rapport à cette organisation très sociale, c'est un projet par rapport à ce qui peut se faire ici en France, qui sont souvent sur le développement durable mais très technique. Là, il y a vraiment un projet social, donc j'aimerais savoir les conséquences que ça fait.
Alors, dès le début, c'était clair, ça ne devait pas être un ghetto. Nous devions être ouverts à la société. Je dirais que par rapport à d'autres quartiers, nous sommes encore plus ouverts. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter et nous participons. Nous avons eu avec la ville des échanges très importants. Donc c'est tout sauf un ghetto. Et concrètement, au niveau tous les jours, nos enfants vont à l'école du village. Nous sommes, en tant que citoyens, nous sommes des membres de l'éco-quartier, mais nous sommes des citoyens du village, nous participons énormément à la du village. Nous sommes toujours considérés comme un peu marginaux, nous sommes très bien acceptés. C'était un peu la prémisse pour prendre ce terrain-là, c'est qu'il y a eu un débat dans le village et les gens votaient s'ils voulaient ce projet ou pas. Donc on était sûr dès le départ d'être acceptés. On est toujours un peu regardés un peu avec des yeux marginaux, enfin comme des gens marginaux, mais non, nous sommes vraiment complètement acceptés. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas les gens du village qui n'auraient pas envie de déménager dans ce quartier-là, mais ils acceptent pleinement les conséquences et la vie qui peut se créer entre nous et le village.
Et retour par rapport
aux
enfants?
Oui, les enfants, alors les enfants, c'est difficile à dire. Il y a un certain nombre d'enfants qui ont maintenant grandi, qui ont quitté le village. C'est difficile à dire s'ils reviendront ou s'ils iront créer d'autres des éco-villages ailleurs. Ce que je peux dire, c'est que pour les enfants, c'est vraiment un univers extraordinaire, puisque il y a, je dirais, 30 et 40 hectares sans voiture, hein, entre les champs, les habitations. Il y a des liens, parce que c'est pas simplement des voisins, c'est des gens avec qui on a construit des maisons, on a fait un projet, donc on a vraiment quelque chose entre nous, entre les adultes, et ça se décale sur le rapport des enfants aussi. Donc les enfants ont des ça donnera dans le futur, qu'est-ce que ces enfants choisiront comme mode de vie et mode d'habité. Ça, c'est intéressant, je ne peux pas y répondre.
Sur le quartier rural et densité et la rencontre entre les deux. Moi, dans une analyse de l'histoire de la ville, je trouve par exemple trois périodes, d'autres la construction de la ville avec le mot, avec l'époque, d'autres après la prise de Saint-Hubert pour contrôler l'humidité de la extension de ville. Dans la troisième partie, c'est de retourner notre regard de l'extérieur de la ville à l'intérieur de la ville pour retrouver une unité qui est la grande spécialiste de l'urbanisme partout dans la ville, dans le monde, parle parfois de l'unité, parfois de cellule, parfois de quartier, comme une unité qui nous permet d'accéder à une cohérence sociale pour arriver à un quartier durable. Donc, moi j'ai vu hier dans la ville de Godas, qui est une densité, je ne sais pas si c'est très fort ou non, mais extrêmement belle, mais je pense que c'est un petit peu loin de durabilité pour la mixité sociale, pour la disponibilité d'énergie et d'espace, et d'autres mots, dans cette articulation entre une densité et l'échelle humaine. Si j'ai bien compris, vous avez parlé que la plupart, plus de 80% des habitants de ce quartier, dont les logements sociaux, avec ce quartier, je pense, je ne sais pas comment vous pouvez intégrer le quartier durable avec la densité, avec la situation.
Alors donc, en prenant un peu peut-être sur le quartier de Villeneuve-d'Ascq que vous avez cité, alors ce qui peut répondre peut-être Philippe Motte, que vous connaissez peut-être un peu mieux ce quartier, est-ce que d'abord raisonner sur des quartiers denses, prenant le Héron, prenant, je ne sais pas, les quartiers que vous avez cités, est-ce qu'on est vraiment dans des quartiers densités, et est-ce que ça répond à cette durabilité?
Hier, sur Villeneuve-d'Ascq, on a visité deux quartiers vraiment opposants qui en matière de densité. Et le premier que j'ai évoqué du Père, c'est un quartier de 45 grandes maisons à l'état, donc les COS 06, donc les presque un corps de France. Et puis l'autre côté, un autre corps de France, c'était un quartier qui a été décidé il y a une trentaine d'années, et les services d'urbanisme de la région nous avaient demandé de ne pas déplacer 4 maisons à l'état. Donc, certes, il y avait un golf au centre, donc la densité de l'UL, c'était environ 7 logements à l'étage, ce qui est bien entendu une hérésie totale quand on refait pas ça.
Bien, nous allons voir l'UL et presque une heure. Vous avez une heure pour manger. Un grand merci aux intervenants.